Mireille Boukessert.
La journée nationale de la liberté de la presse, placée sous le signe de deuil, l'Union nationale de la presse du Congo réclame la tenue des procès vrais et clairs sur l'assassinat de 3 journalistes en l'espace de 2 ans. Le mouvement des libérations du Congo de Jean-Pierre Bemba réaffirme son engagement à œuvrer au sein des institutions de la République dans le cadre d'une opposition républicaine et constructive. C'est ce qui ressort de la convention du MLC tenue à Kinshasa du 20 au 22 juillet 2007. Double meurtre au Nord Kivu, un médecin et son motard ont été abattus par balle samedi dernier près de Sake. Les victimes voulaient échapper aux tracasseries d'un militaire qui a ouvert le feu. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bande noire sur les journaux, 1 heure de silence radio et 5 minutes de silence avant les journaux télévisés. C'est de cette façon que sera célébrée ce lundi la Journée nationale de la liberté de la presse. Par cette célébration silencieuse, la Corporation des journalistes congolais veut interpeller le pouvoir public à plus de sécurité pour les journalistes. En moins de 2 ans, 3 journalistes ont été assassinés en RDC. Pour la présidente de l'Union nationale de la presse congolaise, ces crimes ne doivent pas rester impunis. Chantal Kanimbo estime aussi que les procès devraient aider à connaître les mobiles de ces assassinats. Elle est au micro de Georges Kamoudjova.
Le procès Franck Guiquet, nous connaissons tous les arrêts. C'est quelques personnes qui ont été condamnées, mais la lumière n'a pas été faite sur les motivations de l'assassinat de Franck Guiquet et de son épouse. Et donc, nous estimons qu'il faudrait peut-être ouvrir un autre procès pour que nous puissions savoir pourquoi notre ami Franck Guiquet et son épouse ont été assassinés. Le procès de Bapua Mamba est encore en cours. Le procès de Serge Maïssé, ça a été tellement rapide. On s'interroge sur l'enquête. Est-ce qu'on peut mener une enquête en 24 heures et trouver ceux qui ont tué Serge Maïssé? Ça, c'est bon, mais il fallait mener des investigations un peu plus loin pour en savoir davantage. Parce qu'un procès expéditif comme ça, ça peut laisser des zones d'ombre. Et donc, ceux qui sont derrière tous ces crimes, on ne les connaîtra pas et on ne connaîtra pas le mobile des crimes.
Chantal Kanimbo, présidente de l'Union nationale de la presse du Congo, jointe par Georges Kamoudjova, elle sera l'invitée de Radio Kapi à 8h30, heure de Kinshasa. En rapport avec la disposition d'observer un silence radio du Nord entre 7h juste et 8h ce lundi matin, Radio Kapi se joint à sa manière à l'Union nationale de la presse du Congo. Explication avec Jean-Claude Labrec, chef de projet Fondation Hirondelle et directeur adjoint de Radio Kapi. Il est au micro de René Capita.
Radio Okapi et ses journalistes se joignent au mot d'ordre de l'Union nationale de la presse congolaise en ce lundi 23 juillet pour marquer un certain silence. Mais nous le ferons en respect de notre mission. J'ai parlé aux responsables de l'Union nationale de la presse congolaise pour leur expliquer notre soutien. Et ce soutien s'exprimera à travers nos radiojournaux, l'invité du jour et l'édition spéciale de Dialogue entre Congolais ce lundi 23 juillet. Je vous propose de vous joindre à nous pour marquer ce silence. Merci.
Le MLC et son président national réaffirment leur engagement à œuvrer au sein des institutions de la République dans le cadre de l'opposition républicaine et constructive basée sur la reconnaissance des institutions et de ses animateurs issus des élections. C'est ce qui ressort de la convention du mouvement de libération du Congo MLC tenue du 20 au 22 juillet à Kinshasa. Plusieurs résolutions ont été prises à l'issue de ces travaux. René Capita fait le résumé de ces résolutions contenues dans la déclaration politique lu à la cérémonie de clôture.
Relevant des dysfonctionnements qui tendent à remettre en cause les dispositions constitutionnelles et l'incapacité du gouvernement à répondre aux attentes de la population et aux défis urgents de l'insécurité et de l'intégrité territoriale, les élus et cadres du MLC demandent au président de la République d'assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. Au gouvernement, le MLC demande de définir clairement une politique de la nation, notamment dans le domaine de la gestion sécuritaire. De leur part, les élus du MLC se sont engagés à recourir au contrôle parlementaire et aux sanctions constitutionnelles contre le gouvernement si rien ne change dans le fonctionnement de l'État. Pour ce qui est des activités du parti, les cadres du MLC se sont mis d'accord pour une plus forte démocratisation et une décentralisation du fonctionnement du parti. Quant aux échéances électorales à venir, le MLC attend veiller à la régularité, la transparence et la liberté des futurs scrutins.
Des recommandations faites au gouvernement congolais pour freiner le retour des Congolais en Angola, notamment l'encadrement dans l'exploitation artisanale du diamant dans le carré minier. Ceci à l'issue des échanges entre les autorités et la population des localités qui hébergent ces expulsés. La mission humanitaire interagence et services de l'État a pris fin samedi dernier. Elle avait pour objectif évaluer les besoins de ces Congolais expulsés de l'Angola dans les territoires de Chikapa et Luisa. André Kambala nous parle des différents problèmes relevés dans cette partie du pays.
En Sumbula et Kaboum, dans les territoires de Chikapa, les expulsés attendent du gouvernement des espaces pour l'exploitation artisanale du diamant dans les carrés miniers. Une recommandation qui, selon André Mutunda Shimuna, administrateur des territoires résidant en Sumbula, aura des effets immédiats si les trésors sont mieux encadrés par les négociants. Dans les territoires de Luisa, c'est la mécanisation et l'amélioration des conditions des agents de l'État qui préoccupent à Luambo. Constatant que la plupart des jeunes choisissent l'Angola si ces conditions ne sont pas remplies, la sœur Elisabeth Kakoyende, gestionnaire de l'hôpital de référence de Luambo, redoute la non-prise en charge de son personnel par l'État. En Bangou, par contre, la plupart des jeunes se suffisent du transport à vélo de produits vivriers vers les territoires de Chikapa. Ainsi, se plaignent-ils de tracasseries des services de l'État sur tout le parcours. Ils décrient la patente de 10 000 francs congolais et le fuient systématique et en appellent ainsi à la réaction immédiate du gouvernement. De son côté, le gouvernement n'est pas resté sourd aux doléances de ses expulsés. Des sources proches de la mairie de Chikapa notent que le ministre de Mines, qui a séjourné dans cette ville au cours de cette semaine, a ciblé des zones non exploitées à confier aux exploitants artisanaux. De Kananga, André Kambala, Radio Kapi.
Le quota attribué au secteur de l'agriculture dont le budget de la RDC est insuffisant. Propos du directeur général de la FAO au point de presse qu'il a animé samedi dernier à Kinshasa à l'issue de sa visite en RDC. Visite qui lui a permis d'examiner avec les autorités congolaises la question de la sécurité alimentaire au Congo-Kinshasa et les programmes de soutien de la FAO au secteur de l'agriculture. Jacques Diouf a émis le souhait de voir ce quota augmenter conformément aux accords de Maputo, accords selon lesquels les pays africains s'engagent à octroyer au moins 10% de leur budget à l'agriculture. Les propos du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation sont recueillis par René Capita.
En ce qui concerne le budget, naturellement, le montant actuel est trop faible. Il est de 1,8% par rapport aux 10% minimum. Il y a des pays qui ont 20%, 22%, 30%. Si on regarde la proportion de personnes en milieu rural, c'est à peu près 70-73%. Et l'agriculture contribue pour 56% du produit intérieur brut. Nous pensons donc que ce montant devra être augmenté progressivement et je suis persuadé que lorsqu'on va voter soit un supplément budgétaire ou un rectificatif budgétaire ou lorsqu'on négociera entre députés le prochain budget, cet engagement pris au plan africain sera respecté.
Le directeur général de la FAO a remis samedi dernier une enveloppe de 450 000 dollars au ministère de l'Environnement et Conservation de la Nature. Cet appui financier vise entre autres à réhabiliter l'Institut supérieur d'études agronomiques de Yangambi dans la province orientale. Il servira aussi à finaliser la mise en place et l'application des textes du code forestier, également relancer la politique de l'écotourisme en vue d'améliorer les conditions de vie des populations riveraines. Au Nord Kivu, un médecin et un taximen moto ont été abattus par balle samedi soir près de Sake, environ 35 km au sud-ouest de Goma, en territoire de Masisi, par un homme en tenue militaire. Le docteur médecin traitant à l'hôpital de référence de Bobandana, un peu plus au sud dans la zone de santé de Minova au sud Kivu, et son motard étaient en route pour Goma. Selon la police, le militaire auteur de ces actes coupait la route aux véhicules et motos sur cette route menant à Minova au sud Kivu et rançonnait les véhicules et motos qui passaient par ce point. Ce malfrat est parti après avoir commis son forfait sans être inquiété et son identité reste toujours inconnue. Bernard Danyangi.
L'événement s'est passé aux alentours des 16 heures samedi à Muranga, environ 4 km au sud de Sake. Selon la police de la place, alors que cet élément en tenue militaire multicolore parlant le Kinyarwanda coupait la route aux véhicules et sur cet accès routier, le médecin et son motard, le voyant armé, ont voulu le doubler et c'est alors qu'il a ouvert le feu sur eux par derrière. Les deux victimes sont mortes sur place. Payé avant ce forfait, dit la même source, le malfrat venait de piller 15 $1 et 2 téléphones à d'autres personnes qui passaient par ce même endroit en moto. L'équipe d'intervention du bataillon FRDC basé à Sake est arrivée en retard et jusque-là, l'identité de ce bandit n'est pas connue. Pour le médecin-chef des zones de santé de Minova, le corps du docteur Patrick Manzipaka a été acheminé à Goma dans sa famille et celui de motard à Bobandana au sud Kivu. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
À Bunia, le nouveau programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants PNDDR est entré officiellement en sa phase pratique depuis samedi soir. Cette troisième phase du PNDDR a été officiellement lancée par le directeur national de l'unité d'exécution du PNDDR. C'était à l'issue d'un atelier d'information qui a regroupé notamment les représentants des groupes armés concernés par ce processus, ainsi que les membres de la société civile des Litouri. Le déroulement de la cérémonie avec Jean-Paul Bassil.
Samedi, depuis 9h locale déjà, les délégués de la société civile ainsi que ceux du FNI à Merci du FRPI, trois groupes armés dont les combattants sont concernés par les programmes, avaient déjà rempli la salle de fête de l'hôtel Lusakivana. Pendant 5 heures du temps, les officiels du PNUD de l'UIPNDDR avaient exposé avec tous les détails les contenus du nouveau programme. Ils ont surtout insisté sur le fait que ces nouveaux programmes incluent également la communauté d'accueil comme bénéficiaire. Toutes les zones d'ombre qui hantaient les esprits des représentants des groupes armés de la société civile ont été éclairées. Professeur Toumba Luaba, coordonnateur national de l'UIPNDDR, après avoir donné les coups d'envoi, indique que tout est prêt.
Tout est en place, le personnel aussi, les appareils biométriques pour l'enregistrement. Il y a un appareil qu'on fait venir par avion de Goma et il y a des appareils qui doivent arriver à Pandroba.
Dans la même circonstance, l'FRPI, mouvement armé donc Cobra Matata et leader, a réitéré son engagement à participer dans cette nouvelle phase du PNDDR. Cependant, pour Akobi Muito, son président, le gouvernement n'a jamais respecté ses engagements vis-à-vis de son mouvement conformément aux accords signés en novembre 2006.
Selon l'engagement que nous avions pris en novembre 2006, jusque-là, la FRPI a manifesté sa bonne volonté en donnant un certain nombre d'éléments pour adhérer au processus et jusqu'à présent, nous n'avons encore réussi en quel grade l'ancien de la FRDC.
Les nouveaux commandants de la zone opérationnelle des FRDC en Ituri ont dit qu'avoir déjà reçu des groupes armés, le liste de tous les combattants candidats à cette nouvelle phase PNDDR. Bounia, Jean-Paul Bassila, Radio Okapi.
Le système pénitentiaire congolais doit être réformé. Les représentants venus de toutes les provinces du pays ont pris le temps de réfléchir pour dégager des pistes de solutions à adopter. C'était au cours des assises pénitentiaires dont la clôture était intervenue ce week-end à Kinshasa. Les réformateurs ont décidé, entre autres, la mise en place d'une direction générale autonome de l'administration pénitentiaire. Selon l'ancienne réglementation en la matière, l'administration pénitentiaire dépendait directement du ministère de la Justice. À Diachipuku, nous donne les autres décisions issues de ce rendez-vous.
Le premier élément nouveau dans cette réforme, c'est l'instauration d'un régime de production. Autrement dit, les détenus seront désormais rémunérés pour des travaux qu'ils auront accomplis en prison. Les réformateurs ont aussi décidé l'amélioration des conditions des détentions, notamment au centre pénitentiaire de Kinshasa. À ce sujet, les détenus ne seront plus confinés, les adultes seront séparés des mineurs et les femmes des hommes. À l'issue de ces assises de 5 jours, les représentants pénitentiaires de la RDC ont souhaité la création des provinces pénitentiaires et d'une école de formation pour le personnel pénitentiaire. Autre réforme, la suppression de toute atteinte à l'intégrité physique et morale des détenus. Zangibu Tutu, magistrat et l'un des réformateurs, explique le sens de cette proposition.
Je voudrais mettre fin aux violences commises contre les détenus, hein. Respecter la personne physique et morale des détenus, qui sont des hommes, hein. Ils se trouvent dans un lieu d'enfermement pour expier sa peine. Ils demeurent hommes. On voudrait que dans la nouvelle structure pénitentiaire qui sera mise en place, que les détenus ne soient plus déconsidérés.
Les réformateurs n'ont pas oublié l'état des infrastructures pénitentiaires dans le pays. Ils proposent à ce sujet l'amélioration de l'entretien de ces infrastructures par la mise en place d'un budget conséquent pour chaque établissement. Toutes ces réformes devront être soumises au Parlement puis au chef de l'État pour promulgation.
Il a été consacré hier matin, 3 ans après la disparition de Mgr Paul Mambe Mukanga. Wilingu Mbingengele est le nouvel évêque du diocèse catholique de Kindu. Son cheval de bataille, être tout à tous pour l'évangile. La cérémonie de consécration a eu lieu ce dimanche au petit séminaire Notre-Dame des Apôtres. Gabriel Waminia y était également.
Willy Ngumbi Ngengele, 42 ans, c'est le pasteur sacré du diocèse de Kindu. Après les cérémonies ecclésiastiques de consécration par l'évêque de Kasongo, Monseigneur Kaboy, le nouveau dirigeant de l'église catholique de Kindu a annoncé dans son homélie son cheval de bataille. Il est tiré du 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 22 jusqu'à 23. Être tout à tous pour l'évangile, fin des citations. L'évêque Willy Ngumbi Ngengele a aussi dit que sa porte est ouverte à tout le monde, sans distinction des tribus, des langues et des races, moins encore des rangs sociaux. Il s'engage à écouter les bons et les méchants. Dans le même registre, il a réaffirmé sa ferme volonté de travailler avec les autorités de la province pour une église multidimensionnelle favorisant la réconciliation et le développement intégral de l'homme. Signalons que la cérémonie s'est terminée par la remise de plusieurs cadeaux à l'hôte du jour. Entre autres, une Jeep neuve de marque Nissan, dont de la présidence de la République. Gabriel Ouamé, Kindu, Radio Okapi.
Parlons toujours de l'église catholique à Gbadolité dans la province de l'Équateur. C'est l'installation hier dimanche de l'administrateur apostolique du diocèse de Molégbé, Monseigneur Louis Kinga, évêque du diocèse de Lissala et désigné temporairement à ce poste. Ceci en attendant la nomination par Rome du nouvel évêque en remplacement de Monseigneur Matondo Kwanzambi qui prend sa retraite.